Xavier Besson, 8h40 en temps universel.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Demain, 13 février, sera célébrée la Journée mondiale de la radio. L'occasion ce matin de vous donner la parole sur le thème de cette 5e édition, la radio en situation d'urgence, que ce soit lors de catastrophes naturelles comme les tremblements de terre ou les inondations, lors d'épidémies ou encore de conflits armés. La radio reste incontestablement un média clé. D'ailleurs, dans ces situations de détresse, la radio est le seul média capable d'atteindre le plus grand nombre de personnes dans le monde en transmettant évidemment des messages de protection et de prévention. Alors dites-nous, quel rôle la radio a-t-elle joué dans votre pays en situation d'urgence, qu'elle soit rurale, communautaire, nationale ou internationale? Qu'attendez-vous de la radio dans ces moments de détresse? Vos témoignages évidemment nous intéressent. Vous nous appelez 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France, et vous continuez évidemment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission. J'en profite pour vous rappeler que cette année encore, France Média Monde, donc RFI, est l'un des principaux partenaires de l'UNESCO qui organise cette journée mondiale. Et ce week-end, nous vous proposerons de nombreux rendez-vous. Je vous en cite deux d'abord, et puis je vous donnerai d'autres rendez-vous tout au long de ces 20 minutes. Par exemple, demain, un reportage international sera consacré à Souriali. Souriali est une radio syrienne qui est installée ici en France, à Bordeaux, et qui donne la parole aux Syriens malgré la guerre et l'exil. Et puis, un peu plus tard, demain dans la matinée, l'atelier des médias de Ziad Malouf, nous présentera une radio qui réalise et qui donne la parole aux réfugiés en Allemagne. C'est une radio qui fonctionne pour les réfugiés en Allemagne et par les réfugiés. Un reportage donc à écouter évidemment demain matin sur l'antenne de RFI. Mais d'abord, nous vous donnons la parole ce matin. On va commencer avec vous, Fatou. Bonjour.
Oui, bonjour, Juan Gomez.
Vous êtes dans le sud-ouest de la Guinée, à Forêt-Caria exactement, et vous souhaitiez ce matin nous parler du rôle primordial de la radio ces deux dernières années, puisque votre pays a été victime de l'épidémie d'Ebola.
Oui, Juan, effectivement, vous savez que quand l'épidémie à fièvre Ebola a été annoncée en Guinée, les réticences communautaires sont devenues telles qu'il était difficile pour les équipes de sensibilisation de descendre sur le terrain. C'est ainsi que la radio, donc les radios rurales, communautaires et les radios privées se sont coalisées pour aider à diffuser les messages de sensibilisation. Il y a ce qu'on appelle l'URTELGUI, c'est l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, qui avait même consacré des synchronisations d'antennes pendant des jours. Lorsque vous allumez une fréquence, vous tombez sur les mêmes émissions, ce qu'on a appelé la synergie des radios dans la riposte Ebola.
Oui.
Et c'est lorsque maintenant on s'est rendu compte de l'importance que la radio pouvait jouer dans la riposte à l'épidémie, que, avec l'appui des partenaires au développement, la Guinée a entamé la réhabilitation des radios rurales. Et aujourd'hui, par exemple, je suis à Forêt-Caria et on doit passer même dans une émission interactive dans la radio communautaire.
Pourquoi ? Pour parler d'hygiène. Que faites-vous dans la vie, Fatou ?
Je dirige une ONG qui s'occupe donc de beaucoup d'aspects humanitaires, notamment la sensibilisation sur les maladies, les questions de citoyenneté et de développement à la base.
D'accord. Et donc vous profitez des médias communautaires, des médias locaux, pour transmettre des messages de prévention, et c'est ce qui a été fait d'ailleurs durant l'épidémie d'Ebola, des messages en langue locale. Certes, RFI par exemple et Médecins Sans Frontières se sont mobilisés pour la prévention d'Ebola. Nous, à notre niveau, nous avons diffusé en français, en anglais, en haoussa et en portugais, évidemment des messages de prévention à des heures de grande écoute, où on savait qu'on pouvait effectivement toucher le plus grand nombre d'auditeurs. Mais ce qui est important aussi, c'est effectivement que les radios locales, les radios rurales se mobilisent, et c'est ce qui a été fait. Fatou, ne raccrochez pas, vous êtes nombreux de Guinée justement à souhaiter nous parler de l'importance de la radio pendant l'épidémie d'Ebola. Mamadi, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Conakry, dans la capitale.
Oui, effectivement.
On vous écoute.
Je voudrais témoigner par rapport au rôle important que les radios communautaires ont joué dans la sensibilisation et l'éducation des populations sur la protection, n'est-ce pas, du virus Ebola. Je voudrais seulement rappeler qu'au départ, une mission régionale s'est constituée pour aller dans un village, Womé, qui avait commencé à, dont le virus était apparu, pour sensibiliser la population sur les mesures à prendre pour éviter le virus. Mais malheureusement, c'était le 16 septembre 2014. Malheureusement, il y a eu des terribles. La population n'avait pas compris le message. Pour eux, les gens étaient venus pour propager le virus dans le village.
Et c'est vrai que les villageois s'en sont pris à tous les membres de cette délégation qui était conduite par le gouverneur de la région. On s'en souvient, on en avait parlé sur RFI. Et effectivement, cette visite a tourné à l'émeute. Plusieurs des représentants ont été tués. Et donc quoi, cet événement tragique a suscité une sorte de déclic.
Oui, effectivement, parce que depuis cet événement, il y a eu, on a cherché à changer de stratégie, mais c'est les radios qui ont joué ce rôle important, ce rôle primordial, parce que une radio a la capacité de sensibiliser des milliers de personnes sans avoir être en contact direct, comme ça s'est passé avec la délégation. Donc, il y a eu des messages de sensibilisation en langue locale, en langue nationale, les informants comment éviter Ebola. Mais il y a eu d'autres cas isolés qui n'ont pas été médiatisés. Je prends un exemple sur une sous-préfecture dans la préfecture de Kourousa où les missionnaires étaient venus, quelqu'un s'est détaché pour aller à la toilette. Lui, automatiquement, on pensait qu'ils étaient venus aussi pour propager le virus dans le village. Donc, il a fallu, n'est-ce pas, l'intervention des militaires pour libérer les gens. Parce qu'ils,
ouais, les... Enfin, là, je vois pas trop le rapport de la radio, mais c'est vrai que, effectivement, la radio a joué un rôle très important, puisque, dans un premier temps, beaucoup pensaient en Guinée, dans des régions particulièrement reculées, voilà, que cette épidémie était l'œuvre des Occidentaux. Une fois de plus, on accusait les travailleurs humanitaires, par exemple, de propager la maladie à travers le pays, d'où la nécessité effectivement de mettre en place des programmes en langue locale pour prévenir la population. Merci à vous, Mamadi, bonne journée à Conakry. Fatou, vous étiez à Forêt-Caria, dans le sud-ouest de la Guinée. 33 9 693 693 70. Jean-Baptiste, bonjour.
Bonjour.
On parlait à l'instant de l'importance de la radio lors d'épidémies, l'importance de la radio lors de crises politiques, et ça a été le cas, par exemple, dans votre pays, le Burkina Faso.
Oui, effectivement. Je voudrais dire que la radio, le rôle de la radio n'est plus à démontrer sous monsieur ici au Burkina Faso. Parce que lors du coup d'État du 16 septembre 2015, perpétré par le RSP, conduit par le général Dindiéré, il a fallu qu'une radio clandestine se crée, d'autant parce que le RSP avait procédé à la fermeture de toutes les radios locales. Il n'y avait qu'un RFI qui marchait. Alors, il fallait une radio locale pour appeler à la mobilisation, pour appeler à la population burkinabé à résister. Alors, c'est dans ce sens qu'une radio clandestine a été créée. Des SMS ont commencé à circuler pour donner la fréquence. Et toute la population burkinabé n'avait que cette radio. En fait, pour avoir la bonne information.
Ouais. C'est aussi pour dire... Pour avoir la bonne information, surtout pour relayer les messages du président du Conseil national de la transition, qui était donc le président du gouvernement de transition, Chérif Sy. Donc ça, c'était important, puisqu'il fallait résister face à cette tentative de coup d'État qui ensuite a échoué. D'autres radios diffusées, RFI diffusait également à ce moment-là au Burkina Faso, à Ouagadougou, mais c'était important d'avoir cette radio de résistance, cette radio clandestine. C'était véritablement une radio pirate qui avait eu le jour, puisque tous les autres médias nationaux avaient été fermés par le régiment de sécurité présidentielle. C'était important d'avoir cette radio qui vous informait, on va dire, minute par minute.
Exactement. J'avais même dit que minute était cette radio. C'était pas sûr qu'on allait pouvoir faire échec au coup d'État du général Gervais Dinguéré. C'est peut-être parce que le président du CNT, Chérif Sy, n'a pas été, lui, il a pu échapper un peu au rap du RN, de l'ex-RSP. C'est lui, en fait, qui a appelé à la mobilisation à travers cette radio, qui a galvanisé un peu les troupes, qui a donné un peu de tonus à la population burkinabé, qui leur a permis de sortir dans les rues de Ouagadougou pour refuser, pour empêcher le coup d'état d'avoir. Donc c'est pour dire que le rôle de la radio est tellement important ici sous nos yeux. Et d'autant plus qu'on a une tradition basée sur l'oralité, ce qui est écrit en général ne passe pas tellement trop, et en plus tout le monde ne sait pas lire ici. Et ceux qui savent lire, ceux qui ne savent pas lire, il n'y a que la radio qui les sert en fait d'avoir la bonne information. Et ce qui se dit à la radio est pris pour agent comptant ici au Burkina Faso.
Merci Jean-Baptiste de ce témoignage. Bonne journée à Ouagadougou où il est 8h50. Vous continuez à nous appeler. On a envie de vous entendre sur le rôle de la radio en situation d'urgence. Gabriel nous a contacté de Bujumbura. Il est donc au Burundi. Bonjour Gabriel.
Bonjour Juan, bonjour fidèle auditeur de la RFI.
Je rappelle pour tous ceux qui ne savent pas ce qui se passe au Burundi, depuis 10 mois maintenant, le pays est en proie à une crise politique. Cette crise s'accompagne de nombreuses violences, plus de 400 morts selon l'ONU, plus de 200 000 personnes contraintes à l'exil. Et vous dites que la radio dans votre pays est aujourd'hui quasi inexistante, il n'y a plus de radio indépendante.
Effectivement, Juan, comme vous le savez, tout comme moi et beaucoup de monde, que la radio Burundi, en fait, le principe de la radio, c'est l'indépendance de l'information qui doit être donnée dans toute clarté, avec toute la neutralité et surtout en incluant une autre face de tous ceux qui sont à même de se prononcer sur bien de sujet. Alors, comme tout le monde, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut juste que je vous rappelle qu'il y a pratiquement pas de médias au Burundi, et quand bien même la classe gouvernante dit qu'il y a toujours des médias qui émettent sur le Burundi, je dois rappeler simplement que les médias même, les médias ils doivent dépendre des opinions déjà existantes. Puisque bon, le public, comme vous le savez, n'est pas une masse passive. Donc, je parle de nous, des gens ici au Burundi, il est composé de citoyens rationnels. Et par conséquent, les milieux et les liens sociaux, primaires, l'éducation, arment contre toutes sortes de manipulations des esprits par une imposition d'un médium imposé.
Donc ça veut dire quoi, Gabriel? Je vous entends pas très bien, mais ça signifie que sans radio indépendante aujourd'hui, malheureusement, ça contribue à véhiculer de fausses informations, à véhiculer aussi de nombreuses rumeurs qui circulent.
Bien sûr, maintenant nous sommes en face d'une prolifération de rumeurs issues du fait qu'il n'y a pas de médias indépendants. En plus de cela, il y a le Twitter qui a été là, qui est là juste pour aider les gens au moins à se refouler, juste à exprimer leur point de vue. Il n'y a plus de débats contradictoires, il n'y a plus de leaders d'opinion qui peuvent donner un sens à une action, à une signification, même à quoi que ce soit qui soit mis en place pour aider le pays à être gouverné d'une manière démocratique. Donc, nous sommes en difficulté. Et en plus, c'est même les médias qui émettent aujourd'hui, ils sont stigmatisés. Je parle de la RFI, vous le savez, comme moi, d'ailleurs, que la RFI et d'autres radios comme la VOA, donc la Voix d'Amérique...
Les radios internationales
stigmatisées. Oui, les radios sont stigmatisées. Mmh. Et les autres qui ont été détruites sont quasiment mis dans le collimateur de Poutiste, alors que nous savons que eux, les médias qui sont là avec pour fonction d'informer la population.
Donc, en tout cas, nous, RFI, nous vous donnons la parole, et notamment sur le Burundi, on a eu de nombreuses fois l'occasion de lancer le débat avec les auditeurs burundais, mais aussi avec l'ensemble de nos auditeurs sur le continent africain, puisque la situation sur place ne laisse évidemment personne indifférent. Merci Gabriel de ce témoignage. On continue cette émission consacrée au rôle des médias et au rôle surtout de la radio, à la veille de la journée mondiale de la radio, en situation de crise. Wilney, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Port-au-Prince et la radio, dites-vous, a joué un rôle extrêmement important lors du séisme en 2010. Et vous souhaitiez justement témoigner.
Absolument, mais je voudrais avant attirer votre attention aussi sur, poursuivre Fatou, sur l'épidémie en fait du choléra qui a ravagé Haïti. Alors vous savez, ici on a un rapport en fait avec les malades. Par exemple, quand quelqu'un est malade, donc c'est toujours le voisin d'en face qui est en train de faire quelque chose de surnaturel pour ôter la vie à cette personne. Donc là encore, on a vu en Haïti l'importance de la radio, comment il a fallu passer par la radio pour informer la population des zones rurales que quand quelqu'un est atteint du choléra, ce n'est pas le voisin d'en face qui est en train ou qui est à l'œuvre ou bien qui est en train de faire quelque chose de surnaturel pour le tuer, mais il faut aller avec cette personne-là dans un CTC, un centre de traitement choléra, et ça vraiment a permis en fait de sauver beaucoup de vies en Haïti lors de l'épidémie de choléra en Haïti. Ça c'est une première chose. Mais la deuxième chose aussi, c'est avec le séisme qui a frappé Haïti. Et parce que toutes les radios de la capitale n'étaient pas en onde. Il n'y avait que la radio Signal FM qui était en onde.
Et on a quand vous dites que les autres radios n'étaient pas en onde, c'est-à-dire que les autres radios, les autres émetteurs et studios des radios étaient sous les décombres. Et il n'y en avait qu'une qui continuait à émettre, une radio locale, c'était effectivement la radio Signal FM. C'est ça, c'est ce que vous disiez.
Exactement, exactement. C'était la radio Signal FM. Et vous savez, Port-au-Prince, le fait que Port-au-Prince était ravagé, donc il a fallu en fait l'apport des villes de province comme Cap-Haïtien, les Caïs, etc., pour apporter des soins, pour mettre leurs hôpitaux à disposition des gens, des rescapés du séisme. Là, on a vu comment la radio Signal FM a pu servir la population afin de repérer les endroits où les autobus se sont stationnés pour amener les gens soit vers le Cap, soit vers d'autres villes de province, et donner des points aussi pour trouver des hôpitaux, donner des points d'accès pour trouver et des dispositions et mises en place dans d'autres villes à proximité. Donc vraiment, la radio a servi, la radio Signal FM qui était en onde après le séisme du 12 janvier, a servi vraiment à sauver des vies et à travers les informations qu'elle donne pour pouvoir repérer certains endroits comme la mairie du Cap-Haïtien. Je vais prendre un exemple très rapidement. La mairie du Cap-Haïtien, par exemple, a mis des autobus à la disposition des gens pour pouvoir les ramener au Cap-Haïtien.
Oui. Et donc, grâce à cette radio, la population savait où se trouvaient les autobus et à quel moment ces bus partaient. Merci, Will Ney, d'écouter RFI. Je sais que vous êtes un fidèle auditeur de la radio mondiale. Vous écoutez RFI une grande partie de la nuit. Merci à vous de nous avoir contactés. On parlait d'Haïti à l'instant. Sachez que demain, justement, sur l'antenne Afrique d'RFI, le club RFI sera également consacré à la portée de la radio en situation d'urgence et de catastrophe humanitaire, avec la participation de plusieurs clubs RFI, dont celui du club RFI en Haïti. Et on aura aussi des clubs RFI présents dans les camps de réfugiés en République démocratique du Congo, au Cameroun ou encore en Tanzanie. Amadou, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous êtes à Boaké en Côte d'Ivoire et vous disiez au Standard que pendant la crise politique et pendant la guerre en Côte d'Ivoire, la radio n'a pas joué son rôle.
Oui Juan, autant je reste persuadé de la participation politique des radios concernant le dernier recensement de la population et de l'habitat. Les radios se sont comportées très valablement, mais autant je reste déçu de l'attitude des radios lors de la crise en Côte d'Ivoire. Certaines radios ont carrément joué en faveur, ont travaillé pour les politiques. Ça a été le cas dans le Nord avec des propagandes, des messages pour Alassane Ouattara, parce que l'État ne contrôlait plus rien dans la zone nord. Et dans le sud, c'était la propagande des patriotes. Et la chaîne nationale, malheureusement, a joué ce rôle-là. Et beaucoup de propagande, beaucoup de messages des patriotes sont passés sur ces radios.
Donc les radios locales, nationales, ivoiriennes étaient toutes partisanes.
Complètement, dans le sud, parce que dans le nord, les installations de la radio nationale ont été après utilisées par les forces nouvelles et depuis le début de la crise. Donc ces radios-là étaient utilisées par les forces nouvelles et ça c'est les messages de forces nouvelles qui passaient. Bon. Et j'avoue que ça a cristallisé, j'avoue que ça a donné une autre couleur à la crise.
Merci Amadou de nous avoir appelé de Boaké, merci à vous tous. Vos témoignages